Bon, alors on a un quart d'heure de retard déjà. On va essayer de faire 1 heure quand même, hein. Ça va, c'est pas grave. Si je parle maintenant, je peux parler sans micro. Ça fout. On m'entend assez, j'ai de l'eau ici, c'est bon. J'ai le merdier là. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'ai dans la poche. Et ça, c'est bon. Voilà. Bon, alors on va commencer direct. Tout le monde a signé le papier? C'est important. Je vous mets quoi? C'est important. Donc, Planète à gogo. Alors, ça, c'est en fait, j'ai mis Hugo avec moi parce que c'est un extrait de ce qu'on avait fait ensemble, un atelier qu'on avait fait ensemble au Festival d'astronomie de Florence. Je ne saurais trop prêcher pour le Festival d'astronomie de Florence. Je suis le directeur artistique, comme donc, il se déroule dans le Gers, où on mange bien. Astronomie et gastronomie, c'est bon. Et donc on avait préparé un atelier justement science et fiction, dont il y avait ce planète à gogo, et j'ai fait un extrait, j'ai un peu mis à jour, et il y avait des choses. Bon, comme Hugo ne peut pas être là parce qu'il est sur notre table ronde, donc je le fais tout seul, mais la version plus science de cet atelier, lui il avait la partie plus fiction, des œuvres qui peuvent illustrer la thématique des planètes en science-fiction. Et donc là ce qu'on va faire, c'est d'abord je vais rappeler un peu ce que c'est une planète. Où on en est de la découverte des planètes. Vous avez sûrement entendu parler des planètes extrasolaires, vous avez sûrement entendu parler qu'on a dépassé les 1000 planètes découvertes. Ça paraît un nombre énorme, mais il faut savoir que, bon, enfin, c'est énorme parce qu'il y a 95, on a découvert la première exoplanète. Avant 95, on n'en connaissait aucune. Et on se doutait bien qu'il y avait des planètes qui tournaient autour d'étoiles autres que le Soleil, donc ces fameuses exoplanètes. Maintenant, on en est à 1000. Il y a 150 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Chacune doit avoir en moyenne 2, 3, 4, 5 planètes. Je vous laisse faire la multiplication. On en a découvert 1000, vous voyez, il y a encore du boulot. Mais on est content parce que quand on a 1000 planètes, et quand on a même 900 ou quand on a 1200, c'est pareil, on commence à avoir des statistiques sur ces planètes. On peut commencer à avoir des statistiques et se rendre compte que tout ce qu'on pensait sur la formation des planètes, c'est faux. Et donc, du coup, ça donne du grain à moudre à la réflexion sur la façon dont le système solaire s'est formé. Où on avait des modèles qui formaient le système solaire très bien, et puis dès qu'on les a appliqués à ces nouveaux systèmes planétaires, ben ça ne marchait plus du tout, ça ne collait absolument pas à ce qu'on voyait. Donc allez, on balance tout ça et on recommence. Donc il y avait du grain à moudre, comme souvent, dès qu'on fait de nouvelles observations, elles sont pas souvent adaptées aux théories qui prévalaient avant ces observations, et donc on remet tout sur l'ouvrage et ça permet de réfléchir, d'améliorer tout ça. Alors d'abord, une planète, qu'est-ce que c'est? Je vous montre dans le même sens d'abord ce que j'appelle les cailloux, parce que ça a une forme de caillou. Bon, évidemment, c'est plus gros qu'un caillou, puisque vous voyez que celui-ci, alors le plus gros c'est celui-là, ça éclaire tout ça, évidemment, sur l'écran, on s'en fout. Donc, le gros caillou qui est là, c'est Lutetia, un astéroïde qui a été visité par la sonde Rosetta en 2010 et qui fait 130 km. Il y en a des plus petits, Ida, en haut, là, le long, qui fait 58 km, et des petites pétouilles, là, comme Dactyle. Dactyle, il est marrant parce que c'est un satellite de Ida. Comme on dit, Dactyle, qui fait 1 km de diamètre, tourne autour de Ida. Et les deux ensemble tournent autour du Soleil. Donc il y a des astéroïdes doubles, d'une façon. Donc on va trouver tout un tas de choses. Il y en a qui ont une tête à peu près sphérique, mais avec un gros trou au milieu. Enfin bref, c'est carnaval. Il y a toutes les formes qu'on peut trouver. C'est pour ça que j'appelle ça des cailloux, même si à leur échelle, évidemment, c'est beaucoup plus gros qu'un caillou. Je dis c'est un caillou parce que c'est essentiellement fait d'une roche qui ressemble au caillou terrestre. Une roche de densité 3 ou 4, c'est-à-dire 3 ou 4 tonnes par mètre cube. Il y en a certains, ceux-là sont des cailloux. Il y en a qui sont plus des astéroïdes qui sont plus en matière. Plus denses comme le fer par exemple, et ils sont plus rares. Essentiellement, c'est du caillou. Bon, après, voilà, là il y a la Terre à gauche, mais il faut commencer en haut à droite, et là il y a les petits corps, alors ce que j'appelle petits corps, c'est-à-dire tous les objets qui sont disons, petits, alors on a vu 100 km pour les cailloux, là on passe déjà à 300-400 km, ce sont les petits satellites des planètes géantes, alors il y en a certains qui sont de Saturne, Uranus, Neptune, les savants reconnaîtront, c'est pas très grave, mais regardez. D'abord, les tailles sont croissantes, ça c'est tout à fait clair, mais regardez, il n'y a pas photo. Dès qu'on est assez gros, on est sphérique. Dès qu'on est assez gros, on est sphérique. Et on peut situer la transition entre sphérique et pas sphérique à peu près 500 km. C'est-à-dire un objet qui fait à peu près 500 km de diamètre, il est presque automatiquement sphérique, donc très peu déformé par rapport à la sphère. Et en dessous de 500 km, il est très souvent déformé, voire très déformé par rapport à la sphère. Donc là, cette raison, cette chose-là, elle a une raison très simple, c'est que quand on est assez gros, quand on est assez massif, en fait, par gros, il faut comprendre massif, et non pas gros en taille, mais ça peut être plus ou moins lié, mais donc je parle plutôt de massif. Un objet assez massif a une gravité propre qui va être suffisante pour imposer sa loi devant le reste. Le reste, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut structurer un objet? Qu'est-ce qui lui donne sa cohésion? Alors, si on se pose la question pour vous, moi et les tables ou les ordinateurs, qu'est-ce qui structure ça? Si vous n'avez pas de réponse, c'est pas grave. Il n'y a aucune réponse fausse, c'est juste la réponse que vous avez entendue. C'est les liaisons électrostatiques. C'est des liaisons chimiques entre les atomes qui forment des molécules, entre les molécules entre elles qui forment les tables. Après, on coupe ça en morceaux, on fait des tables ou des humains. C'est de quelque chose, une force qui est d'origine électrique. D'accord? Alors que ce qui donne la structure à une planète, ce qui fait, c'est ça, ça sera ça une des parties de la définition d'une planète, ce qui fait qu'un objet est une planète, c'est quand sa forme est imposée par la gravitation, par la force de pesanteur. Alors vous dites, alors pourquoi il y a ce changement? Pourquoi moi je ne suis pas sphérique? Parce que d'abord je ne mange pas assez de hamburgers, c'est la première raison, de Coca-Cola. La deuxième raison, c'est surtout parce que ma structure est donnée par l'électrostatique. L'électrostatique, c'est une force qui est puissante, enfin comment dire, quand je dis puissante, c'est un terme commun, mais qui ne s'adapte pas vraiment à la physique. C'est une force intense, beaucoup plus intense que la gravitation, mais c'est une force qui a une portée en pratique très faible. Ça veut dire qu'un atome de la table ici n'est absolument pas sensible à un atome de la table à l'autre bout, et même bien loin de l'autre bout, un atome qui est distant de quelques millionièmes de mètres de lui. Il n'est sensible qu'à ses plus proches voisins, tout simplement parce que les atomes sont formés d'un noyau positif, autour duquel orbitent des électrons qui sont négatifs, et un atome est un objet qui est globalement neutre. Il va former des molécules en s'assemblant entre eux par échange d'électrons, une molécule qui va être un objet globalement neutre, et les forces électrostatiques s'exercent entre charges électriques nues, des charges positives et des charges négatives, c'est là où elles sont les plus intenses. Elles s'exercent aussi entre objets neutres qui peuvent acquérir une polarisation sous l'effet des nuages électroniques de l'un, d'un atome sur l'autre atome. Du coup, les forces résultantes entre atomes sont de très petites intensité en pratique, même si elles peuvent être de très grande intensité entre deux charges nues, entre un électron et un autre électron, entre un électron et un proton. Ce qui veut dire qu'un atome, donc, on dit en physique que ses forces sont saturées. C'est-à-dire, en pratique, elles peuvent être intenses, en théorie, mais en pratique, elles sont très faibles. Un atome de la table n'est sensible qu'à ses plus proches voisins. Tandis que gravitationnellement, un atome de la table est sensible à toute la Terre. Évidemment, il sera plus sensible aux atomes voisins, un peu moins à ceux qui sont un peu plus lointains et très peu sensibles à ceux qui sont très lointains. La force de gravitation est une force qui varie en inverse du carré de la distance. On est deux fois plus loin, la force est quatre fois moins forte. Mais un atome de la table est sensible à tous les atomes de la Terre pour une raison simple, il n'existe pas de masse négative. Il existe des charges électriques positives, des charges électriques négatives qui s'écrantent mutuellement, de sorte que la matière est globalement neutre électriquement. Il n'existe que des masses positives. Il n'y a pas de masse négative qui écrante les masses positives et qui ferait qu'en pratique, la gravité serait saturée comme l'électrostatique. Donc la gravitation est une force faible au regard de l'électrostatique, mais c'est une force têtue. Une force têtue parce qu'elle est sensible à toute distance. Ce qui fait qu'il existe, il vient un moment où la faiblesse de la gravitation est compensée par le nombre d'interactions de particules du système. Et quand le système a suffisamment de particules, suffisamment d'interactions gravitationnelles entre ses constituants, l'énergie de liaison gravitationnelle, la liaison gravitationnelle devient supérieure à la liaison électrostatique. Ce nombre, on appelle ça en astrophysique le nombre planétaire, c'est 10 puissance 54 particules. 10 puissance 54, ça représente à peu près la masse de Jupiter. C'est un nombre qu'on trouve en ordre de grandeur. En pratique, c'est des choses qui sont plutôt de 500 km de taille, des choses qui sont beaucoup plus légères que Jupiter. Il existe, autrement dit, un nombre de particules, une masse, à partir de laquelle la gravité domine l'électrostatique. Je ne suis pas sphérique parce que ce qui domine ma liaison, c'est l'électrostatique. La chaise, les tables, c'est pas sphérique pour les mêmes raisons. Les petits corps du système solaire, les 10 km, les 1 km, les 100 km, ne sont pas sphériques parce qu'ils sont dominés par l'énergie de liaison électrostatique. Les corps de 400 km, 500, 1000, 10 000 km sont sphériques parce qu'ils sont dominés par la gravité, et la gravité, précision utile, est une force qu'on appelle asymétrie sphérique. L'intensité de la force ne dépend que de la distance et pas de la position relative des deux corps. Si je prends deux objets distants de 1 mètre, ils vont s'attirer de la même façon qu'ils soient situés comme ci, ou comme ça, ou comme ci, ou comme ça. Ça ne dépend pas de la direction, ça ne dépend que de la distance. Donc ça ne dépend que de la distance, c'est donc une force asymétrie sphérique. Et principe de Curie, Monsieur Pierre Curie, les causes ont les symétries des effets. Si une force a symétrie sphérique, ce qu'elle engendrera aura la symétrie sphérique. D'où les planètes sphériques. Avec un petit bémol, elles sont en rotation sur elles-mêmes, exerçant donc une force centrifuge plus intense à l'équateur qu'au pôle, ce qui fait que les planètes ont l'air d'être, en fait, on le voit un peu sur la Terre, à peine sur la Terre, c'est plus sensible sur les plus grosses planètes gazeuses, sont étirées à l'équateur et nous apparaissent comme aplaties au pôle, comme un pamplemousse. Donc, ça doit être une grande question au XVIIIe siècle, de savoir est-ce que la Terre, sous l'effet de sa rotation, est aplatie comme un pamplemousse ou étirée comme un citron. C'est une question qui a été posée et on a envoyé des astronomes chez les Lapons, en Laponie, pour mesurer un arc de méridien de 1 degré, combien de kilomètres ça fait, combien de lieues, mettons, de kilomètres ça fait. On a fait la même chose sur l'équateur, 1 degré de méridien, et on n'a pas trouvé la même longueur. Et on a trouvé plus court près des pôles que de l'équateur. On a déduit que la Terre était aplatie au pôle par rapport à l'équateur, et donc étirée sous l'effet de la force centrifuge. Donc une planète, c'est quelque chose de sphérique, parce qu'elle est dominée par sa propre gravité par rapport à toute autre force de liaison, en particulier la force de liaison électrostatique, et que cette force de gravitation a la symétrie sphérique et impose à la planète sa forme. Elle ne peut pas être autrement que sphérique. Alors qu'un plus petit corps, la transition que l'on constate avec nos yeux, c'est quelque chose comme 500 km qui représente une masse qui peut être un millième de la masse de la Terre, ou un centième, peut-être plutôt un centième de la masse de la Terre. Évidemment, ça c'est la vision que l'on constate. Si on fait un calcul un peu en ordre de grandeur, on obtient plutôt la masse de Jupiter comme transition. Ce qui est évidemment un peu gros, mais qui donne quand même une idée. Il existe une taille à partir de laquelle l'objet sera forcément sphérique. Les planètes sont sphériques. Et quand on regarde les planètes du système solaire, alors regardez sur Jupiter, c'est assez sensible. Jupiter, on ne la voit pas exactement sphérique, on sent bien qu'elle est un peu écrasée au pôle. Elle n'est pas en réalité écrasée au pôle, elle est étirée à l'équateur par la force centrifuge, parce qu'elle tourne sur elle-même en 10 heures, ce qui est une durée de rotation finalement assez courte, et elle est donc aplatie. Et puis après, il y a les étoiles. Alors les étoiles, c'est un autre monde. La taille du Soleil, 109 fois la taille de la Terre. 330 000 fois plus massif que la Terre. Ça, c'est un autre monde. Ce n'est pas les planètes. Elles sont sphériques aussi, les étoiles, modulo un peu la rotation. Mais elles ont une différence fondamentale avec les planètes. Ça pourrait être leur taille. Mais quelle est la différence fondamentale entre une étoile et une planète? Hein? Exactement. Ce sont des sources d'énergie. Une planète n'est pas une source d'énergie. Elle reçoit de l'extérieur plus d'énergie qu'elle n'en fournit. La Terre pourrait en fournir bien un peu, elle est un peu chaude au centre, cette chaleur centrale. Au centre de la Terre, il fait 6000 degrés, comme à la surface du Soleil. Cette chaleur, elle diffuse à la surface de la Terre, et la Terre, même sans le Soleil, rayonnerait de la lumière, mais de la lumière sous forme d'infrarouge, et très faiblement. Mais elle reçoit du Soleil beaucoup plus qu'elle émet vers l'espace. Donc une planète, c'est un objet qui n'a pas de source interne d'énergie, comme le Soleil, qui est beaucoup plus petite, qui n'a pas ses réactions de fusion thermonucléaire dans leur cœur, mais qui sont sphériques, comme les étoiles. Donc les planètes, ce sont les 8 qui sont là, Mercure, Vénus, etc. jusqu'à Neptune. Pendant longtemps, vous le savez, Pluton a été considéré comme une planète, la 9e planète du système solaire, et puis on s'est rendu compte ensuite qu'au-delà de Pluton, il y avait d'autres objets. Il y avait 2003 UB313, maintenant ils ont des noms, Sedna, Kawar, Eris, je ne sais plus, il y a tout un tas de noms. Il y a plein d'objets qui ont en gros la taille de Pluton, qui sont sphériques, qui tournent autour du Soleil, et qui sont plus loin que Pluton. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va compter planètes 10, 11, 12, 13? Et puis on a commencé à se rendre compte qu'on arrivait, en explorant ces mondes aux confins du système solaire, en découvrant ces mondes, on s'est rendu compte qu'on était en train de rentrer dans ce qui s'appelle la ceinture de Kuiper, enfin K-U-I-P-E-R, un astrophysicien hollandais, qui a imaginé que des résidus de formation du système solaire prévalaient au-delà des frontières actuelles, enfin la frontière actuelle, on dort, mettons, par les grosses planètes, les dernières planètes géantes, Uranus et Neptune. En voyant Pluton, on avait Pluton, point barre, on s'est dit, c'est une planète, on n'en parle plus. Et dès qu'on a commencé les objets d'air, on s'est dit, c'est fini, on ne va pas rajouter 2, 3, 4, 10, 20, 50 planètes. On va décider qu'une planète, c'est un objet qui est sphérique, donc assez massif, un objet qui tourne autour d'une étoile, bon, ça c'est une deuxième propriété, mais Pluton avait cette propriété, et un objet qui a fait le ménage autour de lui-même, ça veut dire qu'il est tout seul dans une zone d'espace autour de lui. Et il est en gros dans un plan orbital commun avec celui de la Terre. Ce qui est le cas de toutes les planètes que vous voyez, Mercure, Vénus, jusqu'à Neptune. Les plans orbitaux sont très peu inclinés par rapport à ceux de la Terre. Pluton est déjà beaucoup plus incliné. Les autres, c'est pareil, c'est un peu carnaval. Ils sont sphériques probablement, vu leur taille. Ils sont autour du Soleil probablement. Ils n'ont pas fait le ménage. Il y a toute une manière de ceinture d'astéroïdes, comme cette ceinture d'astéroïdes qui prévaut entre Mars et Jupiter. Les distances entre les planètes et le Soleil ne sont pas les bonnes. Elles sont posées les unes après les autres, mais c'est tout, pas plus. Il n'y a pas de... n'y a pas de, voilà, y a pas de, d'échelle de distance respectée. Les celles de taille sont respectées, mais pas les celles de distance. Et donc, on a décidé qu'il fallait déblayer tout ça, les mettre dans une autre catégorie qu'on a appelée les planètes naines, pour ne pas déprimer les Américains, qui était la seule planète découverte par les Américains, c'est Pluton. Alors, quand vous venez leur expliquer que leur planète est une pièce, ils ne sont pas contents à l'Union astronomique internationale. Donc, ça a gueulé. Braille, que vous avez vu tout à l'heure, pourrait en parler. Il a participé à la commission qui a décidé de ça. Les Américains, il a fallu leur les faire boire un peu. Donc, ils décident que bon, on laisse tomber. Cérès, du coup, un des plus gros astéroïdes, même le plus gros astéroïde, c'est pas un des plus gros, c'est le plus gros astéroïde qui fait 1000 km de diamètre. Eh bien, Cérès est aussi rentré dans la catégorie des dwarf planètes, donc des planètes naines. Donc, il y a les planètes naines, les cailloux, ce qu'on appelle les astéroïdes ou les noyaux cométaires, et les poussières, les petits machins qui traînent dans le système solaire. Voilà ce qu'il y a dans le système solaire. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont donc les planètes, un objet sphérique, assez gros pour être dominé par sa gravité, ça veut dire ça, en clair, sphérique, qui tourne autour d'une étoile et qui a fait le ménage autour de lui-même, autour de, dans, sur son orbite, il n'y a pas de, d'autres corps nombreux comme lui qui tournent autour de la même étoile. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment.
C'est aussi lié à la gravité, le fait d'avoir fait le ménage ?
Oui, un astre de bonne masse va attirer à lui les objets les plus proches et va voir sa masse croître encore. S'il ne les attire pas à lui, il va dévier les objets, perturber leur trajectoire de telle façon qu'à la fin, ils seront éjectés, on ne les verra plus. Donc soit il les capture, soit il les éjecte. De ce point de vue-là, Jupiter a fait un sacré ménage. Un sacré ménage.
Et qu'en est-il justement des objets qu'on appelle par exemple les Troyennes pour Mars ?
Alors, les Troyennes, ce n'est pas pour Mars, c'est pour Jupiter.
Pour Jupiter,
mais il y a des Troyens pour Mars en très petit nombre, il y a des Troyens pour la Terre en très petit nombre. Les Troyens, c'est quoi les Troyens ? Ce sont des astéroïdes qui tournent en gros sur la même orbite que Jupiter autour du Soleil, mais ils sont situés 60 degrés pile, essentiellement pile, en avant ou 100 degrés en arrière. Donc Jupiter, un bloc de Troyens 60 degrés en avant, un bloc de Troyens 60 degrés en arrière et qui tourne avec Jupiter ensemble. Ces 60 degrés correspondent à ce qu'on appelle les points de Lagrange, L4 et L5. De Jupiter, ou Jupiter-Soleil, je ne rentre pas dans la taille des points de Lagrange. Ce sont des astéroïdes, des petits corps, qui peuvent être assez nombreux dans le cas de Jupiter, parce que Jupiter, ayant une masse importante, elle impose quand même sa loi dans les planètes, en tout cas dans son environnement, et du coup, ces Troyens sont très nombreux avant Jupiter, après Jupiter. Mais ce sont des petits corps, c'est-à-dire des astéroïdes essentiellement, ou des objets pour l'essentiel non sphériques.
Probablement non sphériques. Elle n'a pas tout à fait fait le ménage.
Elle n'a pas tout à fait fait le ménage, parce qu'il existe ces zones d'équilibre stable, ce qu'on appelle les points de Lagrange L4 et L5. Donc ce ménage, évidemment, vous avez un tout relatif. Il y a ces choses qui sont là, qui peuvent être là durablement. Hein, qui peuvent être là durablement. Ça veut dire des milliards d'années éventuellement. Mais qui finiront, le ménage finira par se faire. De toute façon, l'équilibre est stable, mais il y a l'influence de Saturne et un peu celle de la Terre et de Mars, etc. Et petit à petit, ça finit par dégager les choses. Je parlais en termes de masse dans le système solaire. Le Soleil, c'est 99,8% de la masse du système solaire. 0,1% c'est Jupiter. 0,08% c'est Saturne. Et tout le reste, c'est les poussières. La Terre, ça, ça compte pas. D'accord. La masse de tous les astéroïdes, c'est moins que la masse de la Terre. Bon, ça représente pas grand-chose. C'est là, je crois, à peu près la moitié de la masse de la Terre. Alors, depuis 1981, on se doutait bien que les autres étoiles avaient des planètes sans les avoir vues directement. Sans les avoir détectés indirectement, il faut réaliser que ce que l'on sait de ces exoplanètes, c'est essentiellement de la détection indirecte. Je ne rentrerai pas dans les détails de leur détection, mais c'est de la détection indirecte. On ne fait pas d'image au sens un petit point lumineux dans le ciel. Ah, c'est l'exoplanète. C'est arrivé deux fois, à deux reprises, pour des raisons de chance, c'est-à-dire d'aléatoire, de coup de peau. On a pu faire des images d'une exoplanète. On espère en faire plus nombreuses et plus régulièrement en améliorant les techniques de détection. Pour l'instant, on détecte les exoplanètes par l'influence dynamique qu'elles ont sur leur étoile. Autrement dit, vous avez la grosse étoile, la petite planète, eh bien, ce n'est pas la petite planète qui tourne autour de la grosse étoile et la grosse étoile qui ne bouge pas. C'est la petite planète et la grosse étoile qui tournent autour de leur centre de gravité commun. Et du coup, la grosse étoile tourne autour de ce centre de gravité qui n'est pas confondu avec son centre géométrique, le centre de la sphère, l'étoile. Pour vous donner une idée, le centre de gravité du système Terre-Soleil, il est à 400 km du centre du Soleil. Le rayon du Soleil, 696 000 km. Donc il est presque au centre, mais pas exactement. Ce qui fait que le Soleil tourne en réalité, donc, si on prenait que la Terre et le Soleil ne tourne pas sur lui-même autour de son centre, il tourne autour d'un point qui est le centre de gravité du système Jupiter-Soleil, donc un point qui est décalé de 400 km. Donc le système, le mouvement du Soleil est influencé très modestement par le mouvement de la Terre. Pour Jupiter, le centre de gravité du système Soleil-Jupiter, il est à peu près à la surface du Soleil, à 700 000 km de son centre. Donc là, c'est plus manifeste, mais ça, vous voyez, ça reste quand même pas en dehors, quoi. Donc, ces planètes, on les a détectées indirectement, je ne sais pas pourquoi on ne va pas les descendre. Donc là, c'est déjà des images qui sont vieilles. Je mets ça pour donner quelques chiffres, mais regardez, à 2010, tout ça, c'est faux. On en est à 1000 exoplanètes. On a 2321 planètes candidates. Ça veut dire quoi? Candidate, ça veut dire qu'on observe des étoiles, on observe autour d'un grand nombre d'étoiles, on essaie de détecter des indices de présence d'exoplanètes. Ces indices sont d'autant plus fermes qu'on a observé longtemps. Donc il y a des endroits où on se dit, tiens, il y a peut-être des choses qui vont se passer, il y a peut-être des exoplanètes, et il faut répéter l'observation de nombreuses fois pour espérer arriver à une certitude de présence, c'est-à-dire confirmation de présence, et par éventuellement des observatoires ou des équipes non corrélées, qui sont indépendantes les unes des autres. On est à plus de 1000 exoplanètes, donc ça c'est des diagrammes pour vous montrer, ça montre juste la première en 95, regardez, et ça continue, la croissance, la découverte, c'est 10 par mois ou 20 par mois, enfin c'est un rythme extraordinairement soutenu. Donc les exoplanètes, on en trouve, il y a de toute nature, on a commencé par découvrir les plus simples. Les plus simples sont lesquelles? Celles qui ont plus d'influence sur la dynamique de leur étoile, les plus massives. On a commencé à découvrir d'abord les exoplanètes de type Jupiter, ou des trucs plus gros que Jupiter. Et puis, les raffinements méthodologiques avançant, la technique se raffinant, on a découvert de fil en aiguille de plus en plus de planètes, parce que c'est celle-ci qui nous intéresse le plus, évidemment, on a en tête derrière, ah oui, on aimerait une Terre. Donc des planètes qui ressemblent à la Terre, par leur masse, par exemple, d'abord par leur masse. Mais plus elles sont légères, plus l'influence est faible, et donc plus la détection est difficile, et prend du temps, avec des barres d'erreur évidemment importantes. Donc, pour l'instant, on a, j'ai dit, des planètes par milliard, parce qu'on voit que, statistiquement, chaque étoile qu'on observe semble avoir quelques planètes, 150 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Bon. Il y a donc des milliards de planètes dans notre galaxie, ça ne fait pas l'ombre d'un doute maintenant. Ça fait pas l'ombre d'un doute. On en connaît 1000, on en découvre régulièrement. Celles qui nous intéressent le plus sont les planètes qu'on appelle telluriques, qui ressemblent à la Terre, ça veut dire quelque chose qui ressemble à la Terre, c'est pas forcément de la masse de la Terre ou de la taille de la Terre, qui a de l'ordre de grandeur de la masse de la Terre, 2 fois, 3 fois, 4 fois la masse de la Terre, mais qui a une surface solide et peut-être une atmosphère. Mais pas trop dense, parce que si on prend Jupiter, l'atmosphère de Jupiter, c'est presque tout Jupiter. Il y a un cœur solide central d'hydrogène métallique, on s'en fout, c'est sous 50 000 km de nuages, ça ne nous intéresse pas, il n'y a pas un gus, peut-être. Enfin bon, s'il y en a qui marchent à la surface de Jupiter, ça serait intéressant de le savoir, mais on n'aura pas les moyens de le savoir avant longtemps. En revanche, l'intérêt, c'est peut-être une planète de type terrestre dont on pourra faire l'analyse spectroscopique de la lumière atmosphérique, de sorte qu'en analysant cette lumière, on puisse détecter d'éventuels, dans le spectre lumineux, des traces, des indices d'une vie. Parce que la vie, elle consomme de l'oxygène, elle rejette du CO2, elle produit de l'ozone, elle fait des choses, et une planète qui a de la vie et une planète qui n'a pas de la vie, les atmosphères peuvent être assez différentes. Donc on ne sait pas encore faire ça, ça nécessite d'abord d'avoir une image de la planète et d'analyser la lumière qui nous vient de cette planète. On ne sait pas encore faire une image de la planète au sens d'un petit point lumineux sur une photographie. Donc on en est dans les étapes d'abord de détection, de raffinement, de détection indirecte, et on espère bientôt, il y a des méthodes qui sont en recherche, hein, mais qui ne sont pas encore parfaitement opérationnelles, d'imagerie de ces planètes. Pour vous donner une idée de la difficulté, donc une étoile, c'est un objet brillant, la planète, elle réfléchit une partie, elle n'est brillante la planète que parce qu'elle réfléchit une partie de la lumière de l'étoile. Le contraste de luminosité entre la Terre et le Soleil, c'est à peu près 1 milliard. Donc vous prenez une bougie, vous prenez un phare de marine, en pleine gueule, boum. Vous mettez la bougie devant, et vous dites au gars, tu la vois la bougie? Ben non, je vois le truc qui m'arrive pleine gueule. Alors vous dites, ok, je la décale un peu, ça décale de combien? Eh bien pas de beaucoup, parce que vu de loin, ces étoiles sont à des distances extraordinaires, ça prenne à quelques années-lumière, d'autres à des centaines d'années-lumière, on a même détecté une exoplanète autour d'une étoile à 20 000 années-lumière. Alors vous imaginez, la distance apparente, le point de l'étoile et le point de la planète sont extraordinairement près, angulairement parlant, ils sont très près l'un de l'autre, vous ne les séparez pas, la luminosité de l'étoile est complètement dominante par rapport à celle de la planète. Donc les méthodes qu'on espère faire, c'est masquer l'étoile par une sorte de petit coronographe, masquer la lumière de l'étoile quand c'est possible, ça a été possible 2-3 fois, et ce qu'on espère surtout, c'est des méthodes qu'on appelle interférométriques, où on va espérer annuler la lumière de l'étoile par un dispositif qu'on appelle interférométrique, tout en conservant celle de la planète. Et donc, du coup, améliorer le contraste, d'avoir un pour la planète et un milliard pour l'étoile, on aura en gros un pour la planète et un pour l'étoile, ce qui est déjà beaucoup mieux. Et puis de regarder aussi dans des lumières où l'étoile est moins brillante que la planète. Enfin, plus brillante que la planète, mais le contraste sera meilleur. Si on regarde dans la lumière infrarouge, la Terre rayonne beaucoup plus d'infrarouge que le Soleil. Dans certaines longueurs d'onde précises, la Terre est plus froide que le Soleil. Et si on regarde à des longueurs d'onde de genre 10 micromètres, la Terre, ou 5 micromètres, ou 1 micromètre, la Terre est proportionnellement, enfin, comparativement au Soleil, elle est plus brillante qu'en lumière visible. En lumière visible, la Terre, c'est un rapport 1 milliard. Donc elle est complètement indique. Donc on joue un peu sur la longueur d'onde et sur ces méthodes interférométriques. On espère peut-être faire des images de ces planètes extrasolaires. Et ensuite, d'analyser leur lumière. Ça, on n'est pas encore là. Où est-ce qu'on est autour de l'étoile? Où est-ce qu'on peut se mettre? Alors on peut se mettre a priori où on veut, il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas de règle. Mais où est-ce que ça nous intéresse que les planètes soient? Les planètes qui nous intéressent le plus, c'est les planètes de type terrestre, parce qu'on imagine Terre, on y cling-cling, peut-être qu'il y aura la vie dessus. Mais si vous prenez la Terre et vous la mettez à la place de Mercure, la vie sur Terre, c'est fini pour elle, quoi. À la place de Mercure, vous êtes à 55 millions de kilomètres du Soleil. Le flux lumineux que vous recevez sur Mercure, la Terre, c'est 150 millions de kilomètres, c'est en gros 3 fois plus près. Vous recevez donc 9 fois plus, mettons 10 fois plus pour faire rond, 10 fois plus de flux lumineux que depuis sur la Terre. L'ozone, 1300 watts par mètre carré, vous recevez 13 000 watts par mètre carré. La différence entre l'été et l'hiver, hein, c'est vous passez de 800 watts à 500 watts. Hein. Donc si vous passez de 800 watts à 13 000 watts, comprenez que ça canonne, quoi. C'est un été un peu tonique. Hein. Donc il ne faut pas être à la place de Mercure quand vous êtes la Terre. Donc ce n'est pas suffisant d'être la Terre, il ne faut pas être trop proche de l'étoile. Parce que le flux lumineux est tellement intense que vous êtes carbonisé, quoi, tout simplement. Et si vous êtes trop loin, à l'inverse, c'est un peu frisqué. Il va faire froid. L'atmosphère, il n'y en a plus. Il n'y en a plus pourquoi? Parce qu'il fait si froid que l'atmosphère est liquide. Ou solide. Pluton n'a probablement pas d'atmosphère parce qu'elle est solide, son atmosphère. Sur Pluton, la température doit osciller à moins de 150 degrés Celsius. Vous prenez l'air de la pièce ici à moins de 50 Celsius, il n'y a plus d'air. L'oxygène, le dioxygène est liquide, le diazote est liquide, le xénon est liquide, tout est liquide. D'accord. Il y a des mares de votre atmosphère liquide. Donc il n'y a plus d'atmosphère gazeuse. Bon alors gazeux, on dit que c'est intéressant, gazeux. Nous, en tout cas, on aimerait avoir du gaz. On aimerait que la température de surface soit, disons, clémente. Alors on se fonde sur la Terre, c'est le seul endroit où on a la vie, donc évidemment on est un peu terrocentré, si j'ose dire, mais on veut qu'elle ne soit pas ni trop chaude ni trop froide. Bon, qu'il y ait de l'eau liquide, la contrainte qu'on s'impose dans ces, ce qu'on appelle zone d'habitabilité, c'est qu'il y ait de l'eau liquide. Ça dépend de deux choses. La première, pas être trop près ou trop loin de son étoile. La deuxième, éventuellement, une atmosphère, quand je vais revenir, qu'il y ait une atmosphère, une présence de gaz autour de la planète, ça va aider ou pas qu'il y ait de l'eau liquide. Si on se contraint seulement par le flux lumineux qu'on reçoit de l'étoile, il ne faut pas être... Vous voyez, pour une étoile de 0,1 masse solaire, un dixième de masse solaire, il faut être entre là et là. Ça veut dire un dixième de distance Terre-Soleil, une fois la distance Terre-Soleil. Donc un dixième, deux dixièmes, trois dixièmes, quatre dixièmes, cinq, six, sept, huit, neuf, dix dixièmes, donc une fois la distance Terre-Soleil. Donc si vous êtes une étoile de 0,1 masse solaire, et selon l'âge de l'étoile, si l'étoile a un milliard d'années, il faut être entre là et là. On va dire un milliard d'années. Si vous êtes 0,3 masse solaire, il faut être entre là et là, etc. Le Soleil, il est là. Le Soleil, il a 5 milliards d'années, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ben, il faut être, en gros, entre Vénus et Mars. Encore dans cette bande jaunâtre-là. Si vous avez une fois la masse du Soleil, il faut être en Vénus et Mars. Donc la distance de votre étoile est importante. Trop près ou trop loin, ça ne marche pas. Vous remarquez que Vénus est un peu à l'intérieur de la zone d'habitabilité. Elle a une atmosphère en plus très épaisse avec un effet de serre divergent. L'atmosphère, elle sort, c'est une matière de matelas, comment dire, de couverture, qui permet de garder de la chaleur. L'énergie qu'elle reçoit de l'étoile, la planète, ne la perd pas, ne la perd pas aussi facilement parce que l'atmosphère fait une sorte de, comment dire, oui, de couverture, on va dire. Ça veut dire que la lumière rentre, pénètre l'atmosphère parce que l'atmosphère est transparente à la lumière du Soleil. La lumière arrive jusqu'au sol. Elle est absorbée par le sol. Elle chauffe le sol qui rayonne cette énergie ensuite sous forme de lumière infrarouge. Mais l'atmosphère est opaque à la lumière infrarouge. La lumière infrarouge ne passe pas facilement, aussi facilement que la lumière visible à travers l'atmosphère. Et du coup, il rentre des choses et elles ne sortent pas. Ou elles sortent moins facilement. Ce qui fait que la température atmosphérique, la température de surface, est plus élevée que si vous enleviez l'atmosphère. Si vous enlevez l'atmosphère de la Terre, la température moyenne serait moins 18 Celsius. La température moyenne de la Terre, c'est 15 Celsius. Donc quand on dit que l'effet de serre, c'est un problème, non. Il est souhaitable. S'il n'y a pas d'effet de serre, moins 18 la température moyenne de la Terre. Autrement dit, ça va très mal. Bon, le problème, c'est pas trop d'effet de serre non plus. Bon, pas trop d'effet de serre pour nous, hein, parce que là, sur Terre, il y a eu des périodes où la température moyenne était bien plus élevée qu'elle est maintenant, qui a dépassé 23 Celsius. La température moyenne de la Terre moyenne, dans des époques très anciennes, elle a dépassé 22 degrés Celsius. Et des époques où elle était censée en dessous de 15 Celsius, qui est à peu près la température actuelle. D'accord, donc, la Terre, elle s'en fout. C'est nous qui serions, qui vont être emmerdés si l'effet de serre est un peu trop important. Donc, pour avoir la bonne température, pour que de l'eau liquide puisse prévoir à la surface d'une planète, il faut être pas trop proche, pas trop loin, et avoir une atmosphère. Prenez Mars, elle est un peu à l'extérieur de la zone d'habitabilité du Soleil. Du point de vue flux lumineux du Soleil, elle reçoit à peu près 3 fois moins que la Terre. C'est pas rédhibitoire, mais elle a surtout une très faible atmosphère, très ténue. La pression atmosphérique est 160 fois inférieure à la pression atmosphérique terrestre. Et du coup, l'eau liquide, elle ne survit pas facilement parce qu'il n'y a pas le bouchon, il n'y a pas le couvert de la cocotte minute, il n'y a pas ce manteau atmosphérique qui à la fois maintient pression et permet de garder un peu de chaleur sur la planète pour maintenir une température raisonnable. Du coup, sur Mars, la température moyenne est moins 60 degrés Celsius. Trop faible pour que de l'eau liquide puisse s'y développer. Il peut y avoir de l'eau qui coule parce que c'est des poches de glace qui fondent sous le régolithe martien, sous la couche superficielle martienne. On a vu des endroits avec les photos prises par un satellite depuis de Mars, il n'y a rien. On passe 2 mois plus tard, il y a un truc à couler. Et ça coule comme de l'eau. Voilà. Le résultat, on ne l'a pas vu couler. On voit que le résultat de la coulure, et le résultat, ça ressemble vachement à un truc à couler comme de l'eau. Et on a plein de preuves que de l'eau liquide a coulé à la surface de Mars. Des preuves géologiques relevées par les rovers martiens, que de l'eau liquide a coulé à la surface de Mars. Donc Mars a eu de l'eau liquide à sa surface, ne l'a plus. La distance qu'elle avait quand il y avait de l'eau liquide était la même que maintenant, quasiment la même que maintenant. Ce qui a changé, c'est l'atmosphère. Elle a disparu parce que la gravité de Mars est trop faible pour retenir durablement son atmosphère, qui s'est évaporée petit à petit sous l'effet du rayonnement solaire. Même faible, a suffi à faire perdre l'atmosphère martienne. Donc deux effets, distance et présence ou non de l'atmosphère. Ça, c'est important. Alors voilà les candidates exoplanètes les plus intéressantes. Toutes les exoplanètes sont intéressantes. Ce sont des systèmes solaires nouveaux. On les explore. On peut confronter nos modèles de formation de systèmes solaires et apprendre des choses sur la formation des mondes, d'une certaine façon. Mais celles qui nous intéressent, vous l'avez compris, ce sont celles qui sont telluriques. Ils ont une surface et éventuellement d'atmosphère, une surface et une atmosphère, et pas trop lointaine, enfin, dans la zone d'habitabilité de leur étoile. Voici les 6 exoplanètes, Gliese 667cc, Gliese nananinana, Kepler, Schmoll, etc. Des exoplanètes dans la zone d'habitabilité de leur étoile, qui est la bande là, pour différents types d'étoiles, et qui sont telluriques, ça veut dire de l'ordre, leur masse est de l'ordre de, en fait, en pratique, 2 à 3 fois, 4 fois la masse de la Terre. On n'est pas encore capable de détecter une planète, une exoplanète de la masse terrestre. Comment on s'en nommait les choses, pour vous donner une idée? Gliese, c'est l'étoile 667C du catalogue de Gliese, des étoiles qui s'appellent naines rouges. Et petit c, ça veut dire la troisième. À petit a, petit b, les planètes sont numérotées. Pour le Soleil, il y a Sol, Sol A, B, C, D. Nous, on est Sol, C. Bon, ça s'appelle la Terre. Là, on n'a pas donné les noms à toutes ces planètes. Gliese 667C, c'est Gliese 580, ben, c'est la 580e étoile du catalogue de Gliese. D, c'est la 4e planète à partir de... Ça veut dire qu'il y en a 4. Hein. Il y a la A, il y a la B, il y a la C avant. Ça veut dire qu'il y a marqué D, ça veut dire qu'il y a 3 autres exoplanètes en plus. Kepler, ça c'est autre chose. C'est une référence au satellite Kepler qui a découvert cette exoplanète. 62e étoile du catalogue du satellite Kepler. E, A, B, C, D, E. Ça veut dire qu'il y a 5 planète, et la E, c'est la 5e à partir du centre, oui.
Si on sait que, par exemple, on a 5 à partir du centre, c'est-à-dire que celles qui précèdent celles-là, elles sont plus grosses.
Elles sont plus proches, éventuellement plus grosses.
Si on a pu les détecter, c'est-à-dire qu'elles
sont plus grosses. Oui, elles sont raisonnablement grosses, pour qu'on ait plus... Je ne connais pas leur taille. Ça pourrait être, alors, une grande découverte, une des premières découvertes. On s'imaginait, un peu comme les celles solaires, les telluriques, d'abord, puis les géantes gazeuses. Voilà, c'était le... Ok, ça va être comme ça. Et on a trouvé des choses qu'on appelle des Jupiters chauds, des étoiles de la masse de Jupiter qui sont à la place de Mercure. On se dit, explique ce truc. Allez, les modèles qui ne prévoient pas ça, dégagez. C'est-à-dire, tous les modèles de formation, ils ont tous été pris et tous jetés à la poubelle. On a dit, maintenant, il faut être capable de faire des systèmes solaires avec des Jupiters chauds. Comment on fait? Et qui rendent compte aussi du système solaire. Vous voyez, donc ça a été extrêmement brutal. Il y a eu des purges dramatiques, mais extrêmement motivantes dans la réflexion qu'on a sur la formation des planètes. et la formation des systèmes solaires. Donc, vous voyez à peu près à l'échelle là-haut, ce que c'est le système solaire. Hein. Donc, des systèmes planétaires qui sont un peu différents, mais qui peuvent avoir des fois, Kepler 62 F. Donc, ça veut dire qu'il y a 5 exoplanètes, et F, c'est la 6e, donc il y a 5 petites crotouilles. L'exoplanète la plus proche, alors on scrute évidemment les étoiles les plus proches. La plus proche étoile, c'est Proxima du Centaure, c'est une boule, il n'y a rien autour, c'est une petite naine rouge, on regarde pas, enfin, regardez, il n'y a rien, on n'a rien vu, ça peut dire qu'il n'y a rien vu. L'autre qui est intéressante, c'est Alpha du Centaure, qui est à peine plus lointaine, 4,37 années-lumière, c'est celle où vont les gens dans Avatar. Ils vont sur Alpha du Centaure, enfin, autour d'Alpha du Centaure. On a bien regardé, il n'y a pas Polyphème, enfin, il n'y a pas un truc qui serait gros comme Saturne, ça, on en est sûr. On a détecté autour d'Alpha du Centaure, B ou A, je ne sais plus laquelle, bon, c'est pas grave, autour d'une des deux étoiles, parce qu'Alpha du Centaure, c'est une étoile double. On a détecté une planète tellurique, qui fait, je crois, 4 ou 5 fois la masse de la Terre, mais qui est beaucoup trop proche de l'étoile. Alors, elle est carbonisée, enfin, bon, c'est un peu dommage. On n'a pas vu d'autres. Bon, ça sent le gaz. On aimerait bien avoir une exoplanète tellurique dans la zone habitable autour d'Alpha du Centaure, ce serait la classe. Ce serait la plus proche, quoi, 4 années-lumière. Bon, c'est beaucoup, 4 années-lumière. À franchir en fusée, avec nos fusées actuellement, c'est 40 000 ans, hein, de voyage. Donc, il faut quand même faire un léger effort, quoi. Mais, on n'en a pas vu. Bon, alors, du coup, bon, on ne sait pas trop. En tout cas, la recherche continue. On en a 1000, mais ça ne peut que croître exponentiellement avec l'intérêt qu'il y a pour cette recherche. Parce que derrière cette recherche d'exoplanètes, on cherche des recherches qui ressemblent, des exoplanètes qui ressemblent à la Terre, qui sont à la bonne distance, telle qu'on peut l'estimer nous, et puis éventuellement, pour rechercher de la vie. Si on trouve une planète, une exoplanète tellurique, pas trop lointaine, disons 10 ou 12 années-lumière, avec de la vie dessus, peut-être ça motivera les agences spatiales pour envoyer un robot, à défaut d'envoyer des humains. On est encore loin, hein, on a encore cette chose-là. Elle existe peut-être, cette exoplanète. En tout cas, on n'en sait rien pour l'instant. Alors, les voilà représentées à l'échelle... Ce sont des vues d'artistes, hein, tout ça, bien sûr. Hein, représentées à l'échelle de la Terre, celles qu'on a détectées, voilà, elles sont un peu plus grosses que la Terre. Il y a Mars qui est là-bas, un peu plus grosse que la Terre. Voilà, c'est pour vous montrer, on peut faire des représentations qui sont des vues d'artistes, elles valent ce qu'elles valent. Elles ont énormément d'hypothèses. Parce qu'encore une fois, ces exoplanètes, on ne les a même pas vues comme un point lumineux. On les a vues indirectement. Donc, ce sont des modèles de ce qu'on pense être une planète de 4 masses terrestres. Comment elle va être une planète de 4 masses terrestres? Donc, on prend la Terre, on a des modèles de la Terre, on a des modèles de Mars, les planétologues ont des modèles assez détaillés qui rendent bien compte des planètes et de la structure des planètes du système solaire, et on joue avec ces modèles, et une planète de 4 masses terrestres, c'est comment? Donc on sort la réponse du modèle. Bon, il faut se débrouiller avec ça. Donc ce sont des, pour l'instant, un peu des vues de l'esprit, mais qui permettent de jouer, de faire de beaux rapports, de demander régulièrement, la NASA publie des beaux rapports, en régulant, ça veut dire à chaque fois, 15 jours avant les demandes de crédit de la NASA pour le Congrès américain, ouais, il y a des trucs super, tout ça. Bon, c'est la règle du jeu maintenant, mais la science est aussi financée par la publicité. Bon, enfin la publicité, une façon de ne pas se publiciter. Alors, j'en ai peut-être, vous avez vu ce matin, non, je n'ai pas parlé trop longtemps de Pandora et Polyphème, maintenant on va parler d'exoplanètes imaginaires, de planètes de science-fiction. On va faire un peu Pandora, Polyphème, peut-être on va passer vite, parce qu'ensuite derrière, d'abord le temps s'épuise, et puis ensuite il y en a d'autres dont je n'ai pas parlé, donc je pense que je vais passer assez vite sur celle-là. Vous avez vu, bon, les pleins de Lagrange, Nana, on saute ça, l'orbite, tout ça, vous avez vu. Ça, c'est... Alors oui, sur Pandora Polyphème, alors quand même, avant d'aller vite comme ça, je vais vite, mais je vais quand même vous montrer deux, trois images intéressantes. Voilà, celle-là. Ça, c'est pour montrer ce que c'est les points de Lagrange. Hein, les points de Lagrange, vous avez ici deux étoiles qui sont Alpha du Centaure A et Alpha du Centaure B. Alpha Centaure A est un peu plus massif que le Soleil, Alpha Centaure B est un peu moins massif. Donc c'est deux étoiles, disons, qui ressemblent pas mal au Soleil, l'un un peu plus lourd, l'autre un peu moins massif. Et les points, donc elles tournent. L'une et l'autre, elles tournent autour de leur centre de gravité commun. Oublions les planètes pour l'instant qui comptent pour Rupit Sansonnet. Elles tournent l'une et l'autre autour de leur centre de gravité commun, qui là pour le coup est quelque part entre les deux étoiles, parce qu'elles sont de masse comparable, on va dire. L'une est trois fois plus lourde en gros que l'autre. Donc le centre de gravité, il est là, c'est le point rouge qui est là. Elles tournent l'une et l'autre. Alors maintenant, mettons-nous dans le référentiel tournant, dans le manège des deux étoiles autour de leur centre de gravité. On arrête tout le monde, mais parce qu'on arrête, on n'a rien à dire, on tourne avec les deux. D'accord, on tourne avec les deux. Où sont ces centres, ces points de Lagrange? Ces points de Lagrange sont à des endroits où, premièrement, la force de gravité de la première étoile, plus la force de gravité de la deuxième étoile, plus, vous êtes dans un référentiel tournant, la force centrifuge, la somme de ces trois forces s'annule. Ce sont des points d'équilibre de gravité de la première étoile, plus de la deuxième étoile, plus la force centrifuge. Il y a cinq points où ces cinq, la somme de ces trois forces s'annule. Il y a trois qui sont alignées avec les étoiles. L1, qui est ici, le point de Lagrange. L1, Lagrange, parce que c'est monsieur Lagrange. L2, et L3 ici. Je pourrais raconter des tas de choses intéressantes sur ces points de Lagrange. Essentiellement, ils sont instables. Donc, pas de planète. Si vous y mettez quelque chose, s'il est un petit peu dévié, il va s'en écarter de plus en plus et puis il n'y sera plus. Donc ce n'est pas un endroit intéressant, il y aura une planète. Les points L4 et L5 sont les points de Lagrange stables. Ce sont ceux, il y a des satellites troyens, notamment du Jupiter-Soleil. Sauf que le centre de gravité Jupiter-Soleil, vous voyez, il n'est pas là, quelque part, il est dans l'étoile. L'étoile, c'est ce truc blanc, n'est pas l'étoile. C'est une zone blanche, je n'ai pas représenté les lignes de niveau, parce que c'est l'étoile, à l'échelle de ce truc-là, l'étoile, c'est un point, c'est un pixel de l'écran. C'est un pixel de l'écran à l'échelle qui est représenté. Donc voilà, c'était pour vous montrer les points de Lagrange. Ça, c'est pas très grave. L'autre chose qu'on peut dire, voilà, cette affaire-là de d'atmosphère, c'est important. Les gars qui arrivent sur Avatar, sur Pandora, ils ont des masques. Et on leur dit, sans votre masque, vous êtes inconscient en 20 secondes et mort en 4 minutes. L'atmosphère de Pandora n'est pas respirable par les humains. Pourquoi ? Bah parce qu'elle n'a pas la bonne composition. L'atmosphère, évidemment, elle a peut-être la bonne pression, peut-être une atmosphère comme nous, mais elle n'a pas la bonne composition. Quel gaz que peut créer ça ? Alors il y en a plein, il y a des gaz mortels, il y en a plein. Bon. Un gaz mortel courant, c'est le dioxyde de carbone. Si vous êtes dans une pièce où il n'y a que du dioxyde de carbone, vous êtes mort, boum, instantanément. Alors au CEA, c'est bien parce qu'il y a des tas de chimie, il y a des nucléaires évidemment, il y a de la chimie, il y a plein de gens spécialisés, même des équipes de pompiers spécialisées dans la survie en milieu hostile et le secours de personnes en milieu hostile chimique. Parce que quand chez vous, l'huile prend feu, les pompiers de base savent se débrouiller avec ça. Mais quand c'est un laboratoire de chimie, par exemple, et que ça prend feu ou qu'il y a un problème, on ne rentre pas comme ça. Parce qu'il peut y avoir des produits explosifs, plein de trucs pas clairs. Donc il y a des gens spécialisés là-dedans, on peut les interroger sur le CO2. Et voilà ce qu'ils me disent. Quand la teneur en CO2, là, de la pièce, là, c'est 0,036%. En fait, maintenant, c'est plutôt 0,040%. C'est pas beaucoup. C'est inquiétant parce qu'on est passé de 0,034 à 0,040 en un siècle et demi sous l'effet de dégazage humain. C'est inquétant quand on passait à 0,042, 0,043. Vous voyez, ces petits millièmes de pourcents qui augmentent, c'est ça qui va causer l'augmentation de l'effet de serre sur Terre et les problèmes qu'on aura peut-être de réchauffement climatique. Pas peut-être, certainement dans le futur. Donc, vous voyez que les petits pourcents, quand on joue sur les petits pourcents, ça fout la merde dans l'atmosphère de la planète. Enfin, ça fout la merde pour nous humains. Et ça change les conditions planétaires. Ce qu'il me dit, c'est que 10% de CO2 dans une pièce, vous rentrez dans une pièce avec 10% de CO2, vous avez tout de suite des troubles visuels, tremblements, et vous pouvez avoir une syncope. C'est un peu faible physiquement, vous rentrez là-dedans et ça va très mal assez vite. Et si c'est 15%, vous rentrez et vous tombez raide instantanément. Vous rentrez, vous faites boum, c'est fini. 15%, je ne parle même pas de 100%. Donc là, quand je dis ça, ils me disent, ah ben 20 secondes, mort en 4 minutes, ils me disent c'est ça. C'est quelque chose entre 10 et 15% de teneur en CO2 de l'atmosphère de Pandora. Entre 10 et 15%. Si on pense que c'est du CO2, le gaz gênant pour les humains, il y a bien un peu de dioxygène, peut-être de diazote, de je ne sais quoi. Nous, en passant de 0,036 à 0,040%, l'effet de serre, ça a chié. Quoi. Alors, allez, là, on serait à 12%. D'accord ? Donc l'atmosphère de Pandora, c'est à 12% de CO2. Je peux vous dire qu'elle est vraiment différente de la Terre. Elle n'a pas intérêt à être trop proche de son étoile. Parce que si elle est trop proche, elle va avoir ce qui s'est passé sur Vénus. Trop proche au sens, l'étoile Alpha du Centaure A, autour de laquelle tourne Polyphème Pandora, c'est en gros le Soleil, on va dire quelque chose comme le Soleil, un peu plus grand que le Soleil. S'il en est à la même distance de cette étoile que la Terre l'est du Soleil, le flux lumineux va être trop intense vu le pourcentage de dioxyde de carbone qu'a l'atmosphère de Pandora. Donc elle doit être vraiment lointaine pour que le flux lumineux soit plus faible et que du coup, l'effet de serre très important qu'il y a dans cette atmosphère permette une température moyenne agréable. Vous voyez que la position de la planète va jouer beaucoup, la position, disons, idéale, où il y a de l'eau liquide, la température est agréable, alors après, respirer le CO2, les navires, des bouts, je ne sais pas comment, eh bien, elle va dépendre, cette distance agréable, elle va dépendre aussi beaucoup de la composition atmosphérique. Donc quand on parle de zone d'habitabilité, c'est fixé par le flux lumineux de l'étoile, mais aussi par la composition de la planète. Donc ça, c'est la composition de l'atmosphère de la planète. Ça, c'est important. Voilà, j'en ai pas parlé, c'est pour ça que je voulais vous dire un mot là-dessus. Alors, Tatooine, deux soleils dans Star Wars. Vous savez, vous avez vu Star Wars aussi, pas que Pandora. Il y a mieux que Pandora. Deux soleils. Alors là, c'est parfaitement existant. Tout à l'heure, vous avez vu, on a vu Gliese 687C, grand C, petit C. Grand C, petit C. Pourquoi elle s'appelle grand C? Alors, Gliese 687, c'est-à-dire la 687e étoile du catalogue de M. Gliese. Bon. Le grand C. Ah, ben la 687e étoile, c'est pas une étoile. C'est trois étoiles. Grand A, grand B et grand C. Et petit C, c'est la troisième planète du système qui est autour de grand C. Donc, vous avez trois étoiles, dont l'une a trois planètes autour. Donc ça peut être, vous voyez, un peu le bordel. Quoi. C'est pas le, l'étoile, et puis tranquille, il peut y avoir du monde. Donc deux étoiles, nos problèmes ou quoi. Enfin, ce n'est pas de problème a priori. Simplement, quand vous avez un système à deux étoiles, si je reviens sur, sur le diagramme là, il ne faut pas être n'importe où, quoi, si vous voulez que votre planète elle puisse tourner tranquillement. Quoi, voyez. Donc, là, par exemple, c'est pas bien, c'est une position instable. Là, c'est bien, c'est une position stable. Si Tatooine, imaginons ces deux étoiles, qu'elles soient un peu comme le Soleil, donc on les regarde dans le ciel, bon, évidemment, ils ont recoupé le Soleil, donc ça ressemble au Soleil. Donc il y a deux étoiles, vous avez vu comme elles sont proches, évidemment, l'une de l'autre. Bon, on ne sait pas combien, mais vu la taille apparente, ça ressemble à deux Soleils, donc taille apparente peut-être un demi-degré, distance, ben, 3-4 fois 2 degrés. Elles ont l'air d'être à 2-3 degrés de distance, les unes l'une de l'autre. Si vous êtes une planète qui est ici, autour de L4, autour de L5, ce triangle-là, c'est un triangle équilatéral. L4 et L5 forment un triangle équilatéral. Pile, enfin, pas un équilatéral. D'accord ? Donc, si vous êtes là, vous voyez les deux étoiles avec 60 degrés. Exactement. Donc, elle n'est pas L4, L5, la Tatooine. En fait, les orbites Bonnard, c'est celles qui soit tournent très proche d'une étoile ou très proche de l'autre étoile, de sorte de ne pas être trop perturbé par la présence de la deuxième étoile, donc être essentiellement sous la domination de la, l'étoile la plus proche, soit des orbites qui englobent les deux étoiles. Ces orbites-là, enfin ces traits-là, ce n'est pas les orbites, mais des étoiles, des orbites qui englobent franchement les deux étoiles. Quand c'est les deux possibilités pour Tatooine, c'est plausible. On en a vu des exemples de ces exoplanètes dans des systèmes binaires, même ternaires, à trois étoiles. Donc c'est tout à fait possible qu'on voit ça. Donc l'orbite Tatooine, voilà, je viens de dire ça, est similaire aux nôtres, etc. Forme sphérique, pas d'effet de marée visible. Alors, s'il y avait des effets de marée, si les deux étoiles étaient trop proches l'une de l'autre, les forces de marée d'une étoile sur l'autre étoile devrait les déformer, voire faire passer de la matière d'une étoile à l'autre. On devrait voir un pont de matière entre les étoiles, ou en tout cas des déformations, en plus de le fait qu'elles tournent sur elles-mêmes. Bon, ça a l'air clean. Elles sont certainement assez suffisamment, on peut essayer de chiffrer ça, suffisamment éloignées pour que les forces de marée de l'une sur l'autre, là, ne soient pas suffisantes pour qu'on ait ces effets. Ce ne serait pas deux étoiles, ce sont deux étoiles déformées l'une vers l'autre, sous l'effet de ces forces de marée, les forces de marée de la Lune sur la Terre et du Soleil sur la Terre qui déforment les océans. Donc on aurait les mêmes choses. Une étoile, c'est gazeux. Hein. Donc elle se déformerait sans aucun problème sous l'effet des forces de marée qu'il faut qu'il soit pour déformer une étoile. Bon, comme c'est un objet qui a une forte masse, il faut y aller avec des forces de marée un peu toniques. Hein. Donc celle de notre étoile, par exemple. Alors la taille d'Endor, je vais passer là-dessus. Parce que sinon, on va y arriver. Voilà, Mustapha, elle est marrante. Vous vous appelez Mustapha aussi ? Là, il faut avoir vu tout Star Wars, hein. Même les moins bons. Alors Mustapha, elle, c'est une planète où il y a des volcans. Combien il reste ? 4 minutes ? Ah ouais, j'ai commencé 10 minutes en retard. Il doit rester à moins le quart, Hugo. Mais c'est bon. Dans 10 minutes, c'est bon.
Okay. Allez, c'est bon. C'est bon. Vous l'avez encore pour 10 minutes.
Dans 10 minutes. Et après, on se revoit après Hugo, c'est ça ?
Oui, je te retrouve là-bas.
D'accord, ok. Donc Mustapha.
Attention, Mustapha, il fait chaud.
Oui, Mustapha, il fait chaud. Mustapha, on la voit de l'espace, regardez. Elle est un peu rougeâtre. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de volcans à sa surface. Et beaucoup, on voit bien dans le combat, là, super, il y a des volcans, ça coule, il y a de la lave, tout ça. Bon, alors, qu'est-ce que ça peut être, Mustapha ? Ça pourrait être parfaitement une planète raisonnable, qui aurait cet aspect-là, un peu difficile. Bon, s'il fait chaud, si elle est encore en formation, ça serait ça l'idée. Une planète en se formant, elle fait comment ? J'ai dit tout à l'heure, c'est des gros qui gagnent. Hein. Là, on ne discute pas. C'est pas les petits qui gagnent parce qu'ils sont intelligents. Non, c'est les gros qui gagnent tout le temps, parce qu'ils ont une gravité plus forte. Ils attirent à eux les cailloux autour d'eux, ça grossit, et les cailloux, ils tombent. Mais ils tombent avec une vitesse, et l'impact dégage une énergie suffisante pour faire fondre la croûte de la planète. Quand cette pluie de matière externe cesse, bah, faute de combattants, faute de matière externe pompée par les planètes, ou éjectée par la gravité des planètes, donc il disparaît, il s'en va ailleurs que dans le système en formation, eh bien la croûte est encore liquide, la Terre a une période de croûte liquide qui s'est solidifiée par refroidissement, bêtement, rayonnement thermique. Mais l'atmosphère ne peut pas y avoir beaucoup. Parce que pour que la roche soit liquide, je rappelle, la lave, c'est liquide à 1000 degrés, 1200 degrés. Le gaz, là, si vous mettez la surface de la Terre à 1100 degrés, je peux vous dire l'atmosphère, elle s'évapore. D'accord ? Donc, Mustapha avec l'atmosphère, c'est douteux. Qu'elle puisse ressembler à quelque chose comme ça, c'est une planète qui est en train de finir sa formation. On pourrait être dans un système où cette planète est en train de finir sa formation. Donc, ce n'est pas scandaleux. En revanche, avec sa température de surface, une telle température de surface ne devrait pas avoir d'éruption, enfin, ne devrait pas avoir d'atmosphère. Voilà ici Io, ça sert à rien ce truc-là. Voilà ici Io, qui est un satellite de Jupiter. Et sur lequel on voit des éruptions volcaniques. Il n'y a que deux endroits dans le système solaire où il y a des éruptions volcaniques de roches liquides. Il y a des éruptions volcaniques dans le système solaire ailleurs, qu'on appelle le cryovolcanisme, de l'eau liquide, des éruptions d'eau liquide. le Brake a dû en parler, sur Encelade, un satellite de Saturne. Ben, la température moyenne, c'est moins 250 ou moins 230 Celsius. Donc, quand il fait vraiment chaud, on est à 0 Celsius, on a de l'eau à 10 Celsius, et il y a de l'eau liquide qui jaillit en geyser. Donc, on a des preuves visuelles et des preuves spectroscopiques. Donc, on sait que c'est de l'eau et on sait que c'est liquide. Là, regardez, on a ici un volcan, le panache d'un volcan. On a ici le panache du volcan vu de dessus, et on voit l'ombre du panache du volcan. Donc c'est juste stupéfiant, c'est un volcan de roche liquide. Et pourquoi? Parce que Io est dans les forces de marée de Jupiter. Jupiter, c'est grosse planète, grosse force de marée, et Io est mâché, littéralement, écrabouillé, relâché, au rythme de son orbite de à peu près un jour et demi autour de Jupiter. Sous l'effet des forces de marée de Jupiter. Les forces de marée sur Terre, la Lune, là-dessus, le Soleil font des forces de marée qui déforment les océans. Il faut savoir que quand la marée est haute à Brest, la croûte terrestre se soulève de 30 cm. Au Brest, tout merde, 30 cm. Ça redescend, on sent rien. C'est... Et les océans, bah, on les voit. Bon. Quand la Terre a des forces de marée sur la Lune, la croûte de la Lune se soulève d'à peu près 1 mètre. Bon. Les marées de Jupiter sur Io, la croûte de Io se soulève de 100 mètres. 100 mètres par rapport à un objet qui fait, je ne sais plus, je crois que 5000. Non, c'est plus gros que la Lune. Doit faire oui, 4000 ou un peu plus gros que la Lune. La Lune, c'est 3400 km de diamètre. Mettons 4000 km de diamètre. 100 mètres sur 4000 km, ça va beaucoup. Mais quand même, si vous prenez une balle de squash, crac, boum, crac, boum, vous faites ça beaucoup de fois, elle est comment la balle de squash? Elle est chaude. D'accord. La compression, extension, compression, extension, ça fait des frottements internes qui dégagent de la chaleur, par frottement, qui chauffent l'intérieur de la planète et qui font qu'il peut y avoir fracture aussi de la croûte. Et il y a ces éruptions volcaniques qui se produisent sur Io sous l'effet des forces de marée. Donc, Mustafar, ça peut être aussi, on ne le voit pas dans le film, ça peut être aussi une planète qui subit de gros effets de marée, de son étoile par exemple. En tel cas, ça veut dire qu'elle en est assez proche, et donc les conditions de survie, le coût d'atmosphère, là, ça ne marche pas non plus. Ou d'une géante, elle est en orbite autour de Pandora, autour de Polyphème, devrait subir des forces de marée très intenses, et il devrait y avoir un volcanisme actif sur Pandora qu'on ne voit pas dans le film. Discutez, mais il pourrait y avoir du volcanisme sur... Parce que la distance de Io est à peu près justement de 400 000 km, comme celle qu'on a calculée ce matin pour Pandora Polyphème. La planète Hoth, alors c'est, la planète Hoth, c'est ça. Ça, c'est les gadgets qui viennent faire les guignols sur la planète Hoth. Planète de glace, entièrement couverte de glace. C'est possible, avec l'atmosphère et tout ça. Oui, la Terre a passé par des périodes qu'on appelle snowball en anglais, boule de neige. Il y a eu des périodes, il y a 700 millions d'années et il y a 635 millions d'années. C'est pas une discussion, c'est-à-dire on en a des preuves géologiques où la Terre est passée par des périodes où elle a été couverte de glaciers, sauf peut-être l'équateur. On a des traces, notamment à Lyon, et même plus bas en France, hein, jusque dans la vallée du Rhône plus bas. Il y a des endroits géologiques où les géologues qui savent, ils regardent et ils disent, ça, c'est la trace du frottement d'un glacier sur la roche. Quand le glacier avance, il frotte sur le fond et ça fait des traces caractéristiques, c'est ça. À Lyon, des glaciers comme au Groenland. Des gros glaciers qui frottent sur le fond. D'accord, donc ça rigolait pas. Et ça, on en a des traces multiples. Et donc ça a pu être produit comment? Comment la Terre a pu devenir d'un seul coup très froide au point d'être presque entièrement recouverte de glace? Il y a des effets divergents. Il peut y avoir par exemple une éruption volcanique massive qui met des aérosols dans l'atmosphère terrestre qui a un effet refroidissant. Les aérosols, les poussières en suspension dans l'atmosphère terrestre ont un effet refroidissant. Ça refroidit, bien... Ça condense plus de neige, plus de glace, plus d'eau que d'habitude. Ça perturbe le cycle. Ça fait qu'il y a des choses qui se condensaient plus. Il y a plus de glace. La réflexion, l'albédo, la capacité de la Terre à renvoyer la lumière du Soleil vers l'espace, un peu comme un miroir, entre guillemets, l'albédo devient plus grand. Il y a moins d'énergie absorbée par la Terre parce qu'il y en a plus qui est renvoyée vers l'espace. Ça accélère encore le processus. Voilà une possibilité rapidement présentée. Bon, il peut après qu'il y ait un moment donné, il y ait un dégazage de CO2, gaz à effet de serre, parce qu'il y a encore des volcans qui se produisent, ou des volcans sous-marins qui dégazent pas de poussière, mais qui dégazent du CO2 qui bulle au fond, qui remonte à la surface, là où c'est pas encore solide, dans les régions équatoriales. Ça augmente la teneur en CO2 de l'atmosphère, ça augmente l'effet de serre, ça commence à faire fondre la glace. Et puis ça peut recommencer derrière, ça s'est produit au moins deux fois. Donc une planète comme Hoth, parfaitement envisageable, et c'est déjà arrivé à la Terre deux fois. Et avec des indices, enfin des, pas des indices, des preuves géologiques de ça. Géonosis, pour finir. Alors, Géonosis, quand on voit ça, on dit, ah, c'est Saturne, quoi. Ça, c'est une ressuscité de Saturne, regardez Saturne. J'espère que vous avez vu, voilà, Saturne. Bon, Saturne, c'est plus beau, et c'est vrai. Géonosis, alors voilà, Géonosis, il y a ce bazar autour de la planète. C'est un anneau. D'où peut venir cet anneau? D'où peut venir cet anneau? Eh bien, ce qui s'est passé pour l'anneau de Saturne, c'est que des objets qui s'approchent trop près de la grosse planète, Saturne en l'occurrence, peuvent être brisés sous l'effet des forces de marée. Les forces de marée, elles ont un effet d'extension. Elles étirent le bourrelet océanique, elles en font un bourrelet qui s'étire. Alors si vous êtes cette fois-ci sous une influence de forces de marée plus importante, la planète peut être tellement étirée qu'elle se brise en morceaux. La limite en toute laquelle ça se produit, ça s'appelle la limite de Roche, Monsieur Roche, pas la limite de Roche comme le caillou, la limite de Monsieur Roche. Et cette chose-là, pour la Terre, c'est à peu près à, je ne sais plus combien, 12 000 ou 13 000 km au-dessus de la surface de la Terre. Donc, il faudrait que la Lune descende vraiment bas pour être brisée sous l'effet des forces de marée de la Terre, par exemple. Mais c'est arrivé, il y a un cas, c'est la comète, alors attendez, on va sauter des choses, la limite de Roche, voilà, la comète Shoemaker-Levy, c'est ça que j'ai cherché. La comète Shoemaker-Levy en 92, moi j'ai vu tomber sur Jupiter, elle a été brisée par les forces de marée de Jupiter. Elle est passée trop près de Jupiter, elle a été brisée en morceaux sous l'effet de la comète de la force de marée de Jupiter. Phobos, qui est un satellite de Mars, est en train de tomber sur Mars. Je ne dis pas pourquoi, sinon on est foutu. Il est en train de tomber sur Mars. Dans 30 millions d'années, il va passer sous la limite de Roche de Mars. Et ça va faire un anneau, cet anneau d'astéroïdes, de cailloux autour de Mars. Et après, les cailloux, ils finiront par tomber, par être éjectés, mais par tomber sur Mars. Les arbres, à un moment donné, pourraient se planquer sur Mars. Bon, évidemment, je propose le dernier résultat, c'est qu'en fait, Geonosis, ils aient testé l'étoile de la mer. Geonosis, c'est là les espèces d'extraterrestres insectoïdes qui ont inventé l'étoile de la mort, vraiment le turbo laser de l'étoile de la mort, et que l'Empire va chercher, tu pourras rappeler dans l'histoire. Il faut bien tester le turbo laser pour voir s'il fonctionne. Bon, ben, il y a la Lune, allez, bam, allez, ça marche, les gars. Et du coup, comme ils ont cassé le truc, ben, ça fait cet anneau de cailloux autour. C'est ma proposition, bon, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est une hypothèse. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais trop dépasser l'heure. Vous voyez que ces planètes qu'on voit dans les films de SF, on peut pas les comprendre complètement, elles sont évidemment imaginaires, mais il y a des épisodes de l'évolution de la Terre qui sont représentés par ce qu'on voit. Il y a des choses qui sont évidemment pas cohérentes, mais on peut en discuter, on peut essayer de les comprendre, elles sont pas complètement délirantes. Évidemment, ils ont repompé dans le corpus scientifique de ce qu'on sait des planètes, et ils ont mis des choses, disons, imaginatives, créatives, on va dire, et qui sont intéressantes pour l'aventure, qui montrent un monde un peu spectaculaire, mais qui reste quand même raisonnablement spectaculaire, si je veux dire. Donc ça reste discutable, envisageable par la science, quand on peut s'amuser avec. Voilà, merci de votre attention. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres derrière. Voilà, Shoemaker-Levy, les 25 morceaux de Shoemaker-Levy. On voyait tomber, hein, les morceaux, ça fait ça. Ça, c'est plus grand que la Terre. Ça rigole pas. C'est des morceaux typiquement entre 1 km, je crois le plus gros, quelques centaines de mètres les plus petits. Et ils tombaient, Jupiter tourne, et tonk, tonk, tonk. Et donc on les voit, ils sont là, ils sont alignés là. Les impacts, poc, poc, poc. En 92, hein, j'étais suffisamment grand pour avoir mon petit télescope et regarder ça. Dans un télescope de 20 cm, on regardait Jupiter, on les voyait à le télescope de 20 cm, télescope d'amateur. Hein, je peux vous dire, c'était la classe, hein, c'était chouette aussi. Mais si ça tombe sur Terre, ça, c'est bon, quoi. Débrouiller, enfin, je sais pas, faut faire un testament éclair. Hein, puis profiter de la vie dans les quarts d'heure qui vous restent. Bon, merci à vous, bonne soirée.
Merci.